Je vais parler donc de l'histoire des serpents. C'est une histoire qui est en général très peu étudiée. On remarquerait dans les cours que les gens y font en général sur Roukat. L'histoire des serpents, on n'en parle pratiquement jamais. Alors qu'en vérité, il y a plusieurs messages qui sont repris par Rashi dans la paracha de cette semaine autour de cette histoire. Alors, je vais d'abord lire rapidement les versets dans la paracha de la semaine pour qu'on puisse déjà se remettre dans le contexte, puisque comme je dis, la majorité des gens à qui j'ai parlé sur des serpents, ils connaissent pas du tout les détails. C'est normal, parce qu'en général, on s'arrête pas dessus. En plein milieu de la paracha, c'est une petite histoire, ça passe très vite. Alors, on prend la page 390 en bas de la page. On nous raconte, Vaïs ou me or a terech yamsouf, lisbov et teret edom. Donc, comme Rashi explique, Aaron vient de décéder. Page 390. Aaron vient de décéder, donc il vient d'être Niftar. Et ils se sont fait, il y a eu une guerre, d'accord, que la paracha va nous raconter juste avant. Une guerre par les Cananéens. D'accord? Donc Melech Arad, le roi de Arad, il les a attaqués. Les Bnei Israël, c'en est trop pour eux. Déjà, ils sont restés 40 ans dans le désert, parce que là on est après les 40 ans, ça s'est passé très vite. Hein. Dans la paracha Shlach, il y a déjà 40 ans qui sont passés. Donc là on est déjà 40 ans plus tard. Il y a eu la mort de Aaron, plus la guerre, etc. Donc les Bnei Israël, ils ont dit, bon, dans ce cas-là, on retourne. 390. En bas de la page. Donc les Bnei Israël ont dit, dans ce cas-là, en bas de la page. Dans ce cas-là, on rebrousse chemin, on retourne vers l'Égypte. On retourne vers la mer Rouge. Et ils ont fait 7 étapes en arrière, puisque vous savez que les Bnei Israël ont fait en tout 42 étapes. C'est des étapes, comme dans un train qui s'arrête. Donc là, les Bnei Israël, lorsqu'ils ont fait le retour, il y a une partie qui a fait le retour, qui est retournée, et ils ont retourné 7 étapes en arrière. D'accord? Ils sont retournés 7. Non, 42 en tout. Mais ils sont retournés de 7 étapes. D'accord? Ils sont retournés de 7. Bon. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Vatiksar Nefesham Badarer. Donc, Pasuk, je suis Pasuk Dalet. Donc, ils sont en train de faire ce fameux demi-tour, contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Vatiksar Nefesham Badarer. Et le chemin est devenu très difficile pour eux. D'accord? Et ils ont commencé à souffrir du chemin. Rashi explique, ça veut dire quoi? Vatiksar Nefesham Badarer. Littéralement, ça veut dire que leur âme s'est raccourcie. Rashi explique un principe de psychologie. Il dit que lorsqu'une personne a une épreuve qui est trop difficile pour lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je me sens trop petit par rapport à ça. Ça veut dire qu'il sent qu'il n'est pas assez large, il n'est pas assez fort pour supporter l'épreuve. Et Rashi explique qu'en vérité, il y a deux étapes. C'est même en français d'ailleurs. En français d'ailleurs, quand il y a quelque chose qui nous embête, on dit ça me prend la tête. Ça veut dire quoi? Ça me prend la tête. En hébreu, on dit kaved alai. C'est lourd sur moi. Moi, c'est l'équivalent de ça me prend la tête. Quand je dis ça me prend la tête, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je peux gérer, mais ça m'énerve, j'ai pas envie de le faire, ça me casse les pieds. Mais il y a encore plus fort que prendre la tête. C'est quand carrément je dis je me sens petit par rapport à ça, je me sens court par rapport à ça. Là, ça veut dire que je me sens pas à la hauteur. Là, c'est-à-dire que vraiment, c'est trop fort pour nous. C'est ce que les Bnei Israël ont dit à ce moment-là. Fatiksar Nefesham Badarer, dans le chemin, les Bnei Israël ont senti qu'ils étaient dépassés par les événements, puisque effectivement, ils sont en train de retourner, au bout de ce chemin, de retourner vers la mer Rouge, vers l'Égypte.
Ah, ils sont vraiment...
Alors, à ce moment-là, Vaidaber Aham, Belokim ou Vemoshe. Alors maintenant, vous savez, les Bnei Israël, on a toujours été des gens qui savent se plaindre. Donc déjà, on est parti contre la volonté de Moshe Rabbeinu. On a fait demi-tour. Et bien sûr, quand il y a un problème, sur qui on va taper? Sur Dieu et sur Moshe. Alors qu'ils n'ont jamais demandé de faire demi-tour. Au contraire, c'était contre. Vaidaber Aham, Pasukhe, Vaidaber Aham, Belokim ou Vemoshe. Le peuple a parlé contre Dieu et contre Moshe. Et ils ont dit, Lama Eilitu nous mimitraim, pourquoi vous nous avez fait monter? Quand ils disent vous, de qui ils parlent? De Dieu et de Moshe, disent ouais. D'accord?
Associé.
Tel père, tel fils. Pourquoi vous nous avez fait monter d'Égypte, Lamoud Bamidbar, pour mourir dans le désert? Kien Lechem Ven Maim, on n'a pas de pain, pas d'eau. D'accord? Puisque Myriam est décédée, donc c'est-à-dire il y a eu des problèmes autour du pain et de l'eau. Venavchen ou Katsab Alechem Akelokel, et on en a marre de ce pain. Qui est quel auquel, ce pain qui est léger. Alors, pourquoi ce pain qui est léger? Rashi explique, il dit que les Bnei Israël ont dit à ce moment-là, à Moshe Rabbeinu, nous l'ont dit, écoute, l'aman, ça fait 40 ans qu'on en mange, on n'a jamais vu sortir. Il y a un problème, il dit, notre ventre, il va exploser, c'est pas possible, il y a un jour, notre ventre, il va... on va se mettre aux toilettes, il y a un problème. Donc, il dit, on en a marre de manger ce pain-là. Bon. Alors, Akadosh Baruch Hu l'a dit, ah ça ouais. Il suffit. Déjà, vous vous révoltez contre moi, vous partez, je dis rien. En plus, vous permettez maintenant de taper sur moi, et tout ce que j'ai fait pour vous pendant 40 ans, vous dites, on en a marre, vous ne vous êtes jamais occupé de nous. C'est là qu'Akadosh Baruch Hu envoie les serpents. Pasuk Vav. Vaishalach Hashem Ba'am, Dieu a envoyé dans le peuple, et anechashim, aserufim. D'accord?
Pas
donc,
des serpents, hein. Des bois.
La séraphim. Alors, c'est quoi ces serpents? C'est quoi ces serpents? On dit, Asne Rachim Asseraphim, c'est-à-dire les serpents qui brûlent. C'est-à-dire quoi brûler? C'est-à-dire qu'ils sont capables de brûler l'homme avec le venin, d'accord? Le venin qui sort de leurs dents. Ouais. On appelle ça une morsure, d'ailleurs. C'est-à-dire que ça va brûler. Vaïnachrou et Taham, et ils sont venus pour, donc, pour mordre le peuple. Littéralement, c'est-à-dire mordre le peuple. Quel rapport avec le serpent? Très simple. Le serpent, on sait que c'est le premier qui a dit du Lashon Hara. Dans l'histoire. Le premier qui a dit du Lashon Hara, d'accord, qui a parlé mal, c'est le serpent. C'est lui, d'ailleurs, qui a encouragé Chava à faire la faute. Donc il dit, que vienne le serpent qui est le premier à avoir fait Lashon Hara, punir ceux qui ont fait Lashon Hara. Et de la même manière, que vienne le serpent, que tous les aliments du monde ont le même goût pour lui, un serpent, tout ce qu'il mange, Dieu lui a donné une malédiction que ça aura le goût de la terre. C'est ça la malédiction qu'il a eue. Il dit, Afarata, ça veut dire, il lui a dit, tout ce que tu vas goûter aura le goût de la terre. Donc que vienne le serpent, qui tout ce qu'il goûte a le goût de la terre, mordent les bnei Israël, qui eux, ils mangent une manne, et cette manne peut avoir tous les goûts qu'ils veulent. Vous voyez le... D'accord, le parallèle.
L'opposé.
Très bien. Et donc, on a eu une épidémie de serpents. On a des serpents qui viennent, ils sont mis à attaquer les bnei Israël. Ils sont venus de Shevadou. Vayamot Amrav Misraël. On n'a pas les chiffres exacts, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont mortes suite à cette histoire. Beaucoup. Amrav, beaucoup de monde.
Oui, mais attends, il y avait notre malédiction, là, qui devait mourir... dans
non,
le désert.
Il devait mourir avant d'entrer en Israël.
Oui, d'accord. Donc on est toujours dans le cours. Là,
oui, non, mais là c'est une attaque.
Oui, c'est peut-être une opération plus efficace que d'attendre qu'il meure de vieillesse.
Non, c'est pas assez dit. Vous n'avez pas
ils sont tous morts, puisque ça fait 40 ans.
Ah non,
on
est en cours de route là. On est 39e année.
On est dans le processus.
Là, c'est les derniers, c'est les plus chauds qui restent.
On n'arrive pas à les avoir avec le. Ils sont forts, on envoie les serpents.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Et c'est sur ça que je veux m'arrêter aujourd'hui, sur le passage suivant. Vayavo à Amel Moshe, Vayomru Khatanu. Bien sûr, qu'est-ce qu'il fait là, Israël?
On a péché.
Dès qu'on a un problème, et on sent que ça y est, on est dépassé. Donc ils reviennent chez Moshe Rabbeinu, et ils disent, Khatanu, on a fauté. Kizibarnu Bashem Vavar, on a fauté car on a parlé contre Dieu et contre toi, Moshe, puisqu'ils ont attaqué Moshe et Dieu. It palel el Hashem, Moshe Rabbeinu, je t'en prie à Dieu, on sait que t'es de filote. Marche! Veyasser, mais allez-nous être un nachash, et que Dieu nous enlève le serpent. C'est pas les serpents, le serpent. Pour eux, ils voyaient un grand serpent partout. Il y avait des serpents partout.
Oui, comme on dit, d'accord, la grenouille.
La grenouille. Vaïd palel Moshe be'adaham, et le verset nous raconte que Moshe Rabbeinu a prié pour le peuple. Et la Torah nous raconte ça comme si de rien n'était, que Moshe Rabbeinu a prié pour le peuple. Rashi va s'arrêter dessus, il va dire, maintenant, t'imagines ce qui s'est passé? Moshe Rabbeinu, ça fait 40 ans qu'il souffre avec ce peuple. D'accord? Ils arrêtent pas de lui faire voir toutes les couleurs. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Les Bnei Israël se sont révoltés contre Moshe Rabbeinu. Ils se sont enfuis. Ils ont fait chemin demi-tour. D'accord? Ils ont eu une guerre, etc. Ils viennent après, ils attaquent Moshe Rabbeinu. Ils disent, tout ce que tu nous avais pendant 40 ans, ça sert à rien. Ta manne, elle était pas bonne. On n'a pas de pain, on n'a pas d'eau. On veut rentrer en Égypte. En Égypte, ils veulent rentrer. En esclavage. D'accord? Dieu les punit. Après, qu'est-ce qu'il va voir Moshe Rabbeinu? Il dit, Moshe Rabbeinu, priez pour nous. Qu'est-ce que vous aurez fait à la place de Moshe Rabbeinu?
J'en vais les serpents.
Quoi, Khatanu?
Ratanou,
oui, mais Ratanou.
Je suis étonné que M. Rabbeinu n'ait pas déjà pris. D'accord. On reconnaît Ratanou.
D'accord. C'est-à-dire quoi, c'est terrible? 40 ans, mais c'est... ils ont une histoire d'explorateur. Alors, regardez ce que Rachid dit.
Ça ne me dérange pas de partir le 40 ans en voyage.
D'accord. Et alors, Ratanou? Bien sûr, c'est facile, Ratanou. Tu crois qu'on fait toute l'année, après on arrive à Kippo, Ratanou? C'est quoi ça? Où on se croit ici?
Oui,
c'est quoi ça?
Dieu, il a dit qu'un jour...
C'est toi qui es avocat, c'est comme ça que ça marche? Je dis, monsieur le juge, désolé.
Oui, mais...
Ça marche?
Non,
c'est 40 ans, mais c'est une ville.
Désolé.
Je sais pas, nous on imagine...
Ne m'en voulez pas.
...personne sous une tente en train de crever sous la chèvre. Mais non, c'est une ville, ce sont des millions. C'est une ville qui est là.
Alors,
il y a la vie tous les
on va faire Rachid. Non, hit, non.
Non, hit palel, c'est pas l'impératif.
Non, hit palel, c'est repris tout de suite. Hit palel. C'est là. Alors, on va prendre Rachid maintenant. Regardez bien, on va prendre Rachid. Après Raphaël, s'il te plaît. Alors, on va prendre 5 lignes avant la fin de la colonne de droite, dans la page 391, dans Rachi. Colonne de droite, 5 lignes avant la fin de la page. Vaïd Palel, Moshe, donc on nous raconte que Moshe Rabbeinu a prié. Et la Torah nous raconte ça de manière classique. D'accord? Elle nous dit, le peuple est venu, ils ont dit on a fauté, on a parlé contre toi, prie pour nous, et Moshe a prié, comme si c'était acquis. Rachi nous dit, Mikan, de là on apprend d'ici. Les Mishime Vakshim Menu Mechila. Qu'à une personne à qui on demande Mechila de pardonner, chez l'Oyer Zari Milimchol, qui ne soit pas rancunier et qui ne refuse pas de pardonner. Et sous-entendu, Rachid veut nous dire, même si cette personne, c'est pas la première fois qu'il t'a embêté. Moshe Rabbeinu ne compte même plus le nombre de fois que le Bnei Israël l'a embêté. Ils n'arrêtent pas de l'attaquer, lui, Dieu, Hachem, il attaque. D'accord ? Et là, à ce moment-là, Kaviarol, même Dieu a craqué. Parce que lorsque les Bnei Israël ont fait la route de retour, Dieu n'a rien dit. D'accord ? Il n'a rien dit. Bon, il a mis des petits obstacles, mais il n'a rien dit. Et là, à ce moment-là, même Dieu a dit, mais ça y est, ça suffit, c'est quoi cette histoire ? Moshe Rabbeinu a prié. De là, quel enseignement Moshe Rabbeinu veut nous enseigner ? Qu'il faut jamais être rancunier, qu'il faut toujours pardonner. Même si c'est 4, 5, 10, 20 fois. Quand une personne vient te dire pardon, il faut excuser. Même si c'est pas logique d'excuser. Alors, je vais m'arrêter sur ce Rashi, mais avant d'arrêter sur ce Rashi, je veux d'abord raconter la suite de l'histoire. On va prendre le pasouk Chet. Vayomer Hashem el Moshe, Dieu a dit à Moshe, Asé lecha saraf. Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu, il a dit, tu vas te faire un serpent. Mais un serpent, donc en bois, quoi. Enfin, je veux dire, en formé. C'est pas un vrai serpent. Vesimoto Alnet, et tu vas le poser sur un pôle.
Mais écoute, Sarah, c'est pas un serpent. Hein.
Si, Sarah, c'est un serpent. C'est un serpent qui est encore plus venimeux que le narache.
Oui, Alnet, mais bon, c'est pas un narache. Peut-être une race de
serpent. Vous savez quoi la différence entre le narache et le saraf? Le narache, il est, son venin, il est chaud. D'accord? Et le saraf, son venin, il est froid. Mais c'est deux variantes.
Et pourtant, on dit qu'un séraphin.
Ah, c'est plus grave. Ah, ça tue tout de suite.
Oui, mais un séraphin, c'est un ange brûleur.
Je connais pas en médecine ce qu'on dit aujourd'hui, mais en tout cas, je sais que dans la Torah, on nous dit que la morsure, par exemple, enfin, c'est l'équivalent du scorpion. La morsure d'un scorpion est beaucoup plus grave que la morsure d'un serpent, parce que la morsure d'un serpent, elle est chaude, donc on peut l'arrêter. Mais quand c'est une morsure froide, apparemment, c'est très très grave, c'est très très difficile à... Enfin, bon, aujourd'hui, avec les avances de la médecine. Alors, donc il a dit, a priori, Vesimoto Alnes. Donc tu vas te préparer un serpent, et tu vas le poser Alnes sur un pôle. Un pôle, c'est un endroit que tout le monde peut voir. Veaya. Et donc, ce sera Kolanachour, toute personne qui a été mordue. Ça veut dire que là déjà, les serpents se sont arrêtés, il n'y a plus de serpents. Rashi nous raconte qu'il n'y a pas eu seulement des serpents, des morsures de serpents. Il y avait également d'autres animaux qui, dès qu'ils ont senti qu'on a donné la permission de mordre, il y a eu des chiens qui sont mis à mordre, il y a eu des chats qui sont mis à mordre, parce qu'on leur dit ça y est, on peut mordre. Mais la morsure la plus grave, c'était la morsure des serpents. Et Rashi nous raconte et nous dit que selon le degré de révolte contre Akadosh Baruch Hu, on était attaqué soit par un chien, soit par un chat, soit par un serpent. C'était à la demande. Alors, Vaya Kolanashur verra Oto Vachai. Toute personne qui a été mordue, d'accord, verra Oto Vachai, il verra le serpent et il pourra vivre. Vayas Moshe Necha. Alors, Rashi explique, il dit, ça veut dire quoi? Il dit que je vois un serpent en bois et je veux vivre. D'accord? Là, Rashi explique qu'en vérité, c'est, il amène la Gemara qui dit qu'en vérité, donc, je vous dis dans les mots de la Dechachami, il dit, Rinachash, Mitu Mechaye, est-ce que c'est le serpent qui fait vivre, qui fait mourir ou qui fait vivre? Et là, seulement, dit la Gemara, elle dit, lorsque les Bnei Israël regardaient le serpent, ils se rappelaient du fait que tout ça est venu d'Akadosh Baruch Hu, et ça leur permettait de se rappeler que ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le serpent était seulement un symbole, et que des fois, on a besoin de matérialiser un symbole.
On regarde vers le haut, puis
oui,
il l'a planté
sur un pôle. Ouais. D'accord? Donc, on regarde vers le haut, on regarde le ciel et le serpent. Tu vois, t'as le serpent, et quand tu vois plus loin dans le champ, hein, comme dans les photographes, qu'est-ce que tu vois? Tu vois le ciel. Donc, il te rappelle, il dit, pourquoi, d'où le serpent est venu? Du ciel. Donc, si je veux que le problème se résout, il faut se demander au ciel. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serpent était une manière pour les Bnei Israël de se rappeler qu'il fallait demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Et c'est ce qui s'est passé. Vayas Moshe Nechash Nechoshet, pas sous tête. Moshe Rabbeinu a fait donc un serpent. Vayas Simeu à la Nes, il l'a posé sur le pôle. Vayas Inachach Nechashet Ish, si le serpent avait mordu un homme, Vayibit Nechash Nechoshet, Vachai, il lui suffisait de regarder donc ce fameux serpent, Vachai, et il était vivant. Alors vous remarquez que, juste une petite différence avant de passer au pasouk que je voulais m'arrêter. Dans le pasouk Chet, on a dit que tout celui qui était mordu verra Aoto Vachai. Il verra le serpent qui est sur Moshe Rabbeinu, il vivra. Dans le pasouk Tet, on a dit toute personne qui était mordue par un serpent, il observera. C'est quoi la différence en français entre regarder et observer? Regarder, c'est regarder de manière passive, et observer, c'est regarder de manière active. Et Rashi explique c'est quoi la différence entre les deux. C'est que tous ceux qui avaient été mordus par les animaux standards, comme les chiens, etc. et tout, il leur suffisait de regarder rapidement le serpent, et ça suffisait, parce qu'en vérité, ces gens-là, dès le départ, leur avéra était pas très grave. La preuve, ils ont été mordus par une petite morsure. Mais ceux qui avaient été mordus par le serpent, c'est un signe d'Akadosh Baruch Hu que leur cas était très grave. Et ces gens-là, c'est pas simplement voir le serpent qu'ils devaient faire, ils devaient observer le serpent. Ils devaient réfléchir longuement à ce qui s'est passé, pour réfléchir comment tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Bon. Maintenant, je voulais m'arrêter sur le rachis qu'on a lu tout à l'heure ensemble, du pasouk Zayin.
Une fois qu'ils sont mordus par le serpent.
Oui.
Qui est mortel, on a dit.
Oui, c'est mortel, mais...
C'est pas un peu trop tard, non?
Ah non. Parce que pourquoi c'est trop tard? Parce qu'après, la morsure se répand dans le corps. D'accord? Si on arrive à arrêter la morsure, c'est fini. Si on arrive à arrêter l'effet, c'est bon. Le plus tôt possible, il arrive à l'hôpital, le mieux c'est. Après, c'est trop tard. C'est comme tout, comme, hein, c'est ça, c'est comme ça que ça marche, non? Comment ça marche? La morsure d'un serpent, après, ça se répand dans le sang, c'est ça?
T'es mordu.
Ouais, en général, on fait un garrot pour ne pas que ça se réponde.
Pour pas que ça se réponde, exactement. Parce que dès que ça se répand, c'est trop tard. Ah ouais. C'est fini.
Pour les vivants, enfin,
sauf pour le serment ominus. Il y en a qui tuent en 30 secondes.
Et aujourd'hui, on peut changer le sang, ça marche?
Non, qu'est-ce on fait un antigonin, on fait, ouais. C'est-à-dire, il faut savoir quel est le type de serpent qui t'a mordu.
Oui. Et si ça s'est déjà répandu dans le corps?
Non, on te donne des anticorps.
Ah, et ça marche, on peut aujourd'hui.
Mais par contre, c'est du pipeau de faire comme ça.
Mais non, ils disent...
non, un garrot, il a dit. Un garrot, c'est pour bloquer.
Vous lisez tel psaume, mais...
Faut respirer,
surtout.
Faut respirer, il y a des seringues.
Bon. Alors, donc, j'étais en train de dire, on a fait Rashi. Qu'est-ce que Rashi a dit? Rashi a dit que, du fait que Moshe Rabbeinu a prié, ça, c'est un détail anodin de l'histoire, mais en vérité, c'est un détail très important. Du fait que Moshe Rabbeinu a prié pour les bénis Israël, alors que, il me semble que c'est, je crois, la dernière ou l'avant-dernière fois que Moshe Rabbeinu va prier pour les bénis Israël dans un cas tellement extrême, de là, Rashi nous dit, de là, on apprend que, l'oyer zarim ilimchol, il faut jamais refuser de pardonner quelqu'un. Alors, ce que je voulais m'arrêter, c'est qu'en fait, le rabbi explique que quand on regarde Maïmonide, vous savez que Maïmonide a écrit un livre qui s'appelle Mishneh Torah, on voit que, Maïmonide nous parle de l'importance de pardonner à trois reprises, dans trois endroits différents. Dans un premier endroit, Maïmonide nous parle à propos des lois des dommages. Tout ce qui est le dommage entre les personnes, dommage, il a frappé quelqu'un, etc. Et bien Maïmonide nous parle de l'importance de pardonner. Deuxième endroit, Maïmonide nous parle de l'importance de pardonner, c'est dans les lois de la conduite morale, comment une personne doit se comporter. Et là-bas, Maïmonide répète encore une fois qu'une personne doit toujours pardonner. Et enfin, une troisième fois que Maïmonide répète ça, c'est dans les lois de la Teshuva. Il dit, de la même manière qu'on attend de Dieu de nous pardonner, de la même manière, nous aussi, on doit pardonner facilement à ceux qui nous ont embêtés. Ce qui est intéressant, c'est que quand on analyse, et je ne veux pas rentrer dans les détails maintenant parce qu'on n'aura pas le temps, quand on analyse les trois fois où Maïmonide parle donc de cette mitzvah, selon le cas, à chaque fois il emploie des termes différents, qui vont correspondre en vérité à trois niveaux dans le pardon, ce que j'ai expliqué tout de suite. On a le niveau le plus basique du pardon, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le pardon au niveau de l'objet. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Par exemple, quelqu'un m'a fait une crasse, m'a embêté. Bon. À ce moment-là, si je ne lui pardonne pas, qu'est-ce qui se passe? Et moi je ne suis pas content de lui, et Dieu n'est pas content de lui. Donc Dieu va le punir. Donc, pour parer au plus urgent, qu'est-ce que je dois faire? Je dois pardonner la personne sur ce qu'il m'a fait. Maintenant, vous remarquerez qu'en général, on ne pardonne pas la personne, on pardonne l'acte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? On pardonne pas la personne. La preuve, c'est qu'après, on a encore un blocage par rapport à la personne. On a encore un blocage, on n'arrive pas à passer à l'étape suivante. Mais, je dis bon, je pardonne l'acte et c'est bon, on passe à l'étape suivante. Ça, c'est le niveau le plus basique du pardon. Le niveau le plus basique du pardon, c'est quand je pardonne quelqu'un sur l'acte. Quelqu'un est embêté, tu dis, bon écoute, je te pardonne sur ce que tu as fait. D'ailleurs, on dit bien en français, je te pardonne sur ce que tu as fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, n'attends pas que les relations entre nous soient comme avant, mais sur ce que tu as fait, je te pardonne. On oublie, on tourne la page et c'est tout. Ça, c'est le premier niveau du pardon. À ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il voit ça, il dit, bon, bah, si lui, il a pardonné, moi aussi, je pardonne, ça veut dire que j'oublie, pour moi, c'est comme si ça n'a jamais existé. Je ferme les yeux. Mais ça ne change pas que Kadosh Baruch Hu sait qu'il a affaire à quelqu'un qui a fauté. Encore une fois, quelqu'un vous a embêté, vous allez lui pardonner sur l'acte qui vous a fait, mais concrètement, vous lui en voulez toujours. Et c'est le premier niveau du pardon. Deuxième niveau du pardon, c'est quoi? Vous allez comprendre tout de suite le rapport avec Moshe Rabbeinu. Deuxième niveau du pardon, c'est quoi? C'est lorsque je pardonne pas seulement l'acte, mais je pardonne également la personne. C'est ça, c'est beaucoup plus dur. Ça veut dire que je pardonne la personne, je lui dis, écoute, c'est pas seulement que je te pardonne pour ce que tu as fait, je te pardonne à toi en tant que personne. Et on va essayer que nos relations redeviennent comme avant. Ça, c'est très très dur. D'accord? Très difficile. Il y a toujours des traces.
Non, c'est impossible.
C'est très difficile. Extrêmement difficile.
Qui est tordu ne peut être redressé.
Exactement.
À moins d'être un bon juif.
Exactement. L'exemple qu'on ramène toujours dans la Gemara, c'est l'exemple d'un morceau de fer que tu vas tordre. Tu pourras jamais le remettre, à moins que tu vas le fondre. Tu pourras jamais le remettre droit comme il est au début. C'est toujours un petit peu tordu. Très très difficile. Extrêmement difficile. Ok, c'est le deuxième niveau. Attendez, il y a un troisième encore. Donc, premier niveau, c'est je pardonne l'acte. D'accord ? Non. Non, le premier, je pardonne l'acte. On pardonne l'acte. Deuxième niveau, on a dit on pardonne quoi ? On pardonne la personne. Vous savez, dans la Gemara, on fait souvent la différence entre l'objet et la personne. C'est deux choses complètement différentes. Voilà. Troisième stade, c'est quoi ? C'est quand pas seulement je pardonne la personne, mais que c'est comme si qu'il ne s'est jamais rien passé.
Là, c'est directement...
Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de trace. Alzheimer, exactement. Il n'y a pas de trace. Tu cherches, on tape dans l'ordinateur, dans les archives, etc. Rien.
Ça, c'est magnifique.
Bon. Ça, celui-là, c'est vraiment très, 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 très difficile. Trois niveaux. D'accord ? Alors, honnêtement, Akadosh Baruch Hu, elle n'attend pas de nous spécialement d'arriver au troisième niveau. Premier, c'est déjà très, très bien. D'accord ? Pardonner quelqu'un déjà au niveau de, au plan de l'acte. Je pardonne l'acte qu'il a fait, c'est déjà très, très bien. Sauf que, quand on analyse ce que Maïmonide a dit dans les trois sections que je vous ai dit tout à l'heure, quand on analyse les mots, je ne veux pas rentrer dans les détails, on voit que Maïmonide en vérité parle de ces trois types de pardon. Dans la loi des dommages, puisque on doit parer au plus urgent, et donc le plus urgent c'est quoi ? C'est que si tu ne le pardonnes pas, Dieu va le punir. On dit écoute, pardonne l'acte. Ah non, la personne tu lui en veux peut-être, tu lui parleras plus qu'à la fin de tes jours, ça c'est ton problème, mais pardonne l'acte. D'accord ? Ensuite, dans les lois on a dit de la conduite morale, qu'est-ce que tu dis Maïmonide ? Mais lui, tu dis ce qu'on attend de toi, c'est pas seulement de conduire l'acte, de pardonner l'acte, mais de pardonner également la personne. Ça, c'est plus difficile. Ça, c'est une bonne conduite morale. C'est pas obligé, mais c'est mieux.
Ce qui inclut l'acte d'accord aussi, d'ailleurs.
Bien sûr, évident. Oui. Mais dans les lois de la Teshuvah, qu'est-ce qu'il dit Rambam ? Rambam, il dit, puisque nous, on attend d'Akadosh Baruch Hu, qu'il efface tout.
Donc pas de casier judiciaire.
Et qu'il n'y a plus de traces, pas de casier judiciaire, vierge. Mais c'est pas que, on dit, bon, on a vu certaines choses, mais on fait comme si on n'a rien vu, hein. Non, y a rien. Puisque nous, on attend ça d'Akadosh Baruch Hu, alors nous aussi on doit être comme ça, nous aussi on doit être comme ça envers Akadosh Baruch Hu. Alors quel rapport maintenant avec notre Rashi ?
Pas gratuit avec Akadosh Baruch Hu, il nous nettoie. Il nous fait passer.
Oui, mais on demande à Akadosh Baruch Hu justement de faire son nettoyage.
Non, toi, là. Allez, frappe-moi comme ça.
Faut pas demander les épreuves.
Non, je veux pas moi.
Non, mais on demande pas. Mais...
si il envoie, on accepte. Mais il faut pas demander. D'accord ?
Non, on n'a pas demandé, mais il fallait étudier ça.
Chez nous, on tend pas l'autre jour, tu sais. Chez nous, quand quelqu'un met une claque, tu dois l'éviter.
Non, pas compris.
Non, mais tu
nous pardonnes pas comme
la
ça.
La douleur est rédemptrice. Elle nous.
Bon, alors je suis en train de. Deux secondes. J'arrive, David. J'arrive.
La femme, c'est pas obligé qu'elle accouche.
Quel rapport maintenant avec Moshe Rabbeinu ? Très simple. Moshe Rabbeinu, c'est évident que Dieu, il sait que Dieu, Akadosh Baruch Hu peut pardonner facilement. Mais il sait qu'une personne qui a été profondément blessée ici, c'est Moshe Rabbeinu. Il a de quoi être blessé. On l'a blessé. On lui a dit oui, ça fait 40 ans que tu nous tournes en bourrique, tu nous racontes une fois ci, une fois ça. Moshe Rabbeinu a été blessé.
Il a le dollar.
Bon. Qu'est-ce que Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu ? Écoutez bien. Dieu a demandé à Moshe Rabbeinu, il lui a dit assez les chassaraf. Il a dit, tu vois le serpent que tu vas faire, hein, le serpent que j'ai demandé de te mettre sur un pôle. Je veux que tu le payes de tes propres sous. Lecha, c'est-à-dire tes propres sous.
Ouais, je me suis posé la question sur le lecha.
Lecha, exactement. Pourquoi ? Alors regardez comment le rabbi explique, il dit c'est très simple. Il dit parce que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, il a dit écoute, je ne sais pas par rapport à quel niveau tu vas les pardonner. Je sais pas ce que tu as pardonné l'acte, d'accord, ou tu as pardonné la personne, ou carrément tu veux que j'oublie tout comme si de rien n'était. Regarde, Moshe Rabbeinu, ce que moi je veux te demander. Ce que je veux te demander pour prouver que vraiment tu veux les pardonner, que vraiment tu mets tout ton cœur dedans, et que vraiment tu les prends comme tes enfants, et que pour toi c'est comme si ça ne s'est rien passé. Tu sais quoi ? Normalement, quand il y a un sacrifice à offrir, qui c'est qui offre le sacrifice ? C'est celui qui a fauté. D'accord ? Tu sais qui va payer le serpent que je demande de faire ? Tu vas le payer de tes propres sous. À un moment, on aurait dû faire une cotisation. Tout celui qui a fauté, celui qui veut être guéri, il paye temps et temps pour le médecin.
Ah, c'est pour ça dans les formations.
Les gens, ils auraient payé avec plaisir. Qu'est-ce que Dieu disait, Moshe Rabbeinu ? Il dit non. C'est toi qui vas faire le serpent. Pour montrer que pas seulement tu es concerné, mais que tu les as pardonnés entièrement et qu'il n'y a plus aucune trace, rien. Quand tu vas construire le serpent, comme on avait fait une fois un cours, que le regard de cheval nous fait remarquer que chaque fois que c'est marqué l'écha, c'est-à-dire que non seulement ça doit être fait par l'argent de la personne, mais ça doit être construit physiquement par la personne. Ça veut dire que, imaginez-vous Moshe Rabbeinu, le grand chef, en train de construire un serpent en bois. Donc il était là pendant tout ce temps-là qui fait ça.
Une rochette, non ?
D'accord ?
Une rochette, c'est un métal, c'est un
non
bronze, un... En bronze.
Ah oui, en bronze, pardon, mais exact. Ouais, les rochettes. D'accord ?
C'est du cuivre.
Imaginez-vous maintenant Moshe Rabbeinu en train de faire ça. D'accord ? En train de faire ça. Moshe Rabbeinu en train de faire ça. Imaginez-vous comment Moshe Rabbeinu a réfléchi. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait ça ? Parce que Akadosh Baruch Hu a voulu dire, je ne pourrai pardonner les béné Israël que lorsque toi tu auras montré que tellement tu leur as pardonné que tu travailles pour eux. Pas seulement t'as pardonné l'acte, t'as pardonné la personne, d'accord ? Et carrément t'as tout effacé que pour toi maintenant tu dis, je veux qu'ils guérissent et c'est tout, ça y est, c'est fini. Et lorsque Moshe Rabbeinu a montré ça, Kadosh Baruch Hu dit, maintenant que toi tu les as pardonnés à 100%, moi aussi je peux les pardonner à 100%. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous remarquerez qu'à la suite de la paracha Chukat, d'accord, à la suite de cette histoire, tout va se calmer. Par exemple, c'est quoi, quel paracha est après la paracha Chukat? Balak. D'accord? Balak. La paracha Balak, là déjà on voit comment Kadosh Baruch Hu nous protège. D'accord, etc.
Et ils sont même pas au courant d'ailleurs. Les
non, ils sont tout même pas au courant. Tout s'est passé à l'inconnu.
Mais qui
d'accord
a écrit ça alors?
La seule histoire malheureusement qu'on a eu après, c'est l'histoire de Pinchas, l'histoire avec Pinchas.
Ouais.
Parce qu'on a eu
ouais
la débauche. Bon, ça. D'accord. Mais en tout cas, ce qu'on retient d'ici, c'est quoi? C'est que on retient d'ici que quand on pardonne quelqu'un, pas seulement qu'on doit pardonner l'acte, on doit pardonner la personne, on doit effacer comme si de rien n'était. Et que quand, l'enseignement que le rabbi dit, c'est que quand nous on pardonne les hommes comme ça, quand on pardonne facilement, Kadosh Baruch Hu nous pardonne aussi facilement. Ça veut dire que si on est dur avec les hommes, Dieu est dur avec nous aussi. Il y a Dieu. Bien sûr, c'est dur. Très dur. Alors, on va essayer au moins de pardonner au premier niveau. Le plus difficile, c'est quand il récidive. C'est la même, il recommence. Une fois, c'est facile à pardonner. Après, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, ça y est, basta. Dis bon, écoute, tu fais ta vie, fais ma vie, sois tranquille. D'accord? C'est dur?
Non? Si tu es conscient que toi aussi tu pardonnes des erreurs, tu pardonnes deux fois.
Ah ouais, il y en a marre, ça y est.
Si tu es conscient que toi aussi.
Non, mais il y aurait des erreurs de préjudice.
Moi, je pense que le deuxième niveau est déjà très difficile. Parce que quand tu as une personne qui t'embête plusieurs fois, tu dis écoute, reste à ta place, je reste à ma place, tu fais ta vie, je fais ma vie, je te pardonne sur l'acte, mais la personne, je pardonne pas. D'accord? Non, il y a des gens qui sont... Bon, enfin...
Attendez, il y a aussi une histoire de la hauteur du préjudice.
Il y a des gens qui reviennent à la charge toutes les quelques semaines, tous les quelques mois. Ne cherche pas, ça existe. Mais... Ils ont besoin, c'est comme ça. D'accord ? Dieu est... Ces gens-là, on a envie de leur pardonner l'acte, mais pas la personne. De dire, écoute, je te pardonne, reste à ta place, je reste à ma place, tu me laisses tranquille, d'accord ? Non, reste à ta place, écoute, ne me parle plus, je t'en prie. Voilà, je te pardonne, je t'en parle, t'as pas de problème, on n'en parle plus, on oublie, c'est fini, c'est bon, allez.
Oui, mais d'accord, ça, normalement, c'est
oublie-moi
le contraire. C'est
oublie-moi,
pas
je t'oublie. D'accord?
Tu dis ça à quelqu'un, non, là, il a... tu veux qu'il réagisse.
Non, non, écoute, non, pas du tout. Non, des fois, tu dis, écoute, fais ta vie, je fais ma vie. Ça, c'est pardonner l'acte. C'est pas suffisant. Parce qu'après, imaginez-moi que Kadosh Baruch Hu nous pardonne l'acte aussi. Dis-moi, je t'ai pardonné l'acte, mais... Je veux plus te voir. Comprenez? Comme on se comporte envers les hommes, c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu se comporte envers nous. Là, on apprend de Moshe Rabbeinu dans cette histoire. Voilà.
Comment on peut comparer le fait que la vision...